Nous sommes de retour. On va discuter avec le ministre des Pêches et des Océans, Dominique Leblanc, qui a bien voulu accepter notre invitation pour venir expliquer les mesures qu'on va prendre cette année pour la protection des baleines. Ce sera une année importante, on le verra, mais aussi l'envers de la médaille, parce que ça ne plaît pas à tout le monde, cette mesure-là ou ces mesures-là. Bonjour, Dominique Leblanc.
Oui, bonjour.
Bien, d'abord, votre gouvernement a décidé donc de présenter justement sa réglementation pour la protection des baleines noires. Précisez-nous pourquoi il faut agir d'abord en partant, là.
Bien, c'est ça. Nous avons une obligation sous la loi canadienne des espèces en péril d'agir et pour la protection, pas simplement la protection, mais le rétablissement des espèces en voie de disparition. Puis les baleines noires sont franchement un des meilleurs exemples de mammifères marins beaucoup, beaucoup menacés. On a une collaboration depuis très longtemps avec le gouvernement américain, les scientifiques américains, parce que ces baleines noires passent l'hiver un peu au large de la Géorgie et la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Mais l'été, la migration a été traditionnellement dans la baie de Fundy. Mais comme on a vu l'été passé, probablement parce qu'ils suivaient leur nourriture, on a eu des 140, 150 baleines noires qui sont arrivées dans le golfe du Saint-Laurent. Et c'est là où on a eu 12 morts dans les eaux canadiennes, 5 au large des États-Unis. C'était une année extrêmement difficile l'année passée. Et les scientifiques et toutes les nécropsies, la recherche qui a été faite suite à ces décès-là, ont confirmé que c'était l'interaction avec des engins de pêche et le transport maritime, les gros navires, des voies de navigation, finalement des collisions avec des navires ou des empêtrements dans les engins de pêche qui ont causé ces morts-là. Alors c'est dans ce contexte-là que et Marc Garneau et moi, on a annoncé des mesures que nous croyons sont assez robustes pour essayer d'augmenter la protection puis éviter les difficultés de l'année passée.
Et pas trop robuste pour l'industrie des pêches?
Globalement,
là, avant d'aller secteur par secteur, là, mais globalement, c'est pas trop robuste pour l'industrie de la pêche?
Moi, je ne pense pas. Beaucoup des idées ont été avancées par les pêcheurs eux-mêmes, les pêcheurs du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'île du Prince-Édouard. Il y a eu plusieurs discussions avec l'industrie de la pêche, des idées que ce soit changer des cordes, des engins de pêche, ajuster le montant de cordes qui peut être attaché à des cages d'homards ou de crabes des neiges. Toutes ces idées-là ont été en grande partie avancées par l'industrie elle-même. Mais aussi, la réalité, c'est que si nous ne prenons pas des mesures robustes et nécessaires pour la protection des baleines noires, il pourrait avoir des conséquences très, très négatives à l'industrie canadienne. L'industrie des crabes des neiges a déjà perdu cette année la certification du Marine Stewardship Council, une organisation internationale qui certifie des pratiques de pêche comme étant durables. On a eu une suspension cette année pour l'industrie des crabes des neiges. Ça aura un impact directement sur les clients qui vont acheter les crabes des neiges canadiens. Ça pourrait avoir un impact sur le prix ultime que les pêcheurs peuvent avoir. Si l'industrie du homard, par exemple, perdait sa certification sous cette organisation internationale-là, il y aura, d'après nous et d'après l'industrie, des conséquences extrêmement difficiles en termes d'accès à des marchés, que ce soit des géants comme Costco, par exemple, ou Red Lobster, qui achètent énormément de fruits de mer canadiens. Eux autres, de plus en plus, insistent d'avoir cette certification-là. Leurs clients insistent d'avoir cette certification-là. Alors ça, c'est un exemple, un petit exemple, mais direct sur l'économie de ne pas prendre des mesures robustes. Et aussi, l'autre réalité très difficile, c'est que la loi américaine fait en sorte que si nous n'avons pas des mesures équivalentes, des mesures américaines pour protéger des mammifères marins en voie de disparition, on peut perdre l'accès au marché américain. Cela aura un impact épouvantable sur si 80% de nos exportations vont aux États-Unis. Imaginez-vous que vous avez un business puis vous perdez 80% de vos ventes du jour au lendemain. c'est pas exactement encourageant pour le prix.
Mais il y a certains pêcheurs qui disent que ce sera difficile, cette réglementation-là, et même pour la capture, ça peut diminuer à tel point qu'on se dit, avoir une certification pour vendre quoi? On n'aura plus rien à vendre à un moment donné si l'industrie tombe parce qu'on ferme des zones et puis qu'on ne peut plus aller pêcher, là.
Oui, puis d'ailleurs, c'est un scénario que les pêcheurs ont avancé quand je les ai rencontrés à Chipagan, au Nouveau-Brunswick, par exemple, il y a 2 semaines, ou à Moncton la semaine passée. Moi, je ne partage pas cette inquiétude-là. Nous allons prendre des mesures nécessaires pour la protection des baleines, mais nous allons être toujours conscients du besoin des pêcheurs et des transformateurs, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui dépendent aux usines de transformation, du besoin de ces pêcheurs-là d'aller chercher leur prise. Alors, moi, je pense que c'est une exagération de dire que le scénario fera en sorte que toutes les zones seront fermées en même temps et que personne ne pourra aller déposer un engin de pêche dans l'eau. Ça, c'est pas du tout le cas. Il faudra peut-être que les pêcheurs ajustent certaines zones de pêche. Puis ils sont des créatures de tradition. Moi, je vois ça chez moi au Nouveau-Brunswick. Leur grand-père a toujours pêché dans cette région-là. Mon père a pêché dans cette région-là. Alors moi, il faut que je dépose mes engins de pêche dans cette zone-là, dans cette région-là. Si on leur dit qu'il faut peut-être aller 7 ou 8 kilomètres à l'est ou à l'ouest parce qu'il y a des baleines dans un certain secteur, moi, ça ne leur empêche pas de pêcher, d'aller tendre leur cage. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il faut qu'ils ajustent. Mm-hmm. Et on sera conscient de ça. Mais je ne créerai pas une situation où les pêcheurs ne peuvent pas aller prendre leur prise. Il faut juste qu'on soit conscient de limiter l'interaction entre ces engins de pêche et les baleines noires, et parce que c'est dans l'intérêt à long terme de l'industrie de le faire.
Si on peut regarder secteur par secteur rapidement, au niveau du crabe des neiges, on voulait commencer 2 semaines plus tôt la pêche, mais la glace, finalement, n'a pas permis. Je regarde dans la mesure en général, il y a déjà une zone qui est fermée, puis on vient d'ouvrir la pêche. Pourquoi on démarre cette réglementation si tôt, alors que les baleines, on nous dit qu'elles seront là au mois de juin?
Mais encore là, les scientifiques, on a choisi la date, on a fermé une partie de la zone. C'est la zone de fermeture statique, comme oui. Tout le monde, c'est une boîte dans la zone de pêche de crabe des neiges qui est fermée. Ça a été fermé parce que 90% des baleines qui ont été identifiées l'été passé ont été à l'intérieur de cette boîte-là. Alors, si c'est le même cette année, au moins, on aura amené une protection, je pense, importante. Il y a beaucoup d'autres parties de la zone qui sont ouvertes à la pêche. Les avis scientifiques que j'avais m'ont dit que c'était à la fin avril que les premières baleines ont été identifiées en entrant dans les eaux canadiennes.
Okay.
On ne sait pas. Les baleines passent 50% de leur temps en dessous de l'eau. Alors, on ne les voit pas, malgré le fait qu'on a des avions puis des outils de surveillance accrus cette année. Moi, je pense que c'était une précaution importante de mettre en place cette fermeture-là. Comme vous avez bien dit, on a essayé d'ouvrir la pêche plus tôt. Ça, c'était une idée que les pêcheurs ont avancée dans une rencontre que j'ai eue en novembre l'année passée. Moi, j'ai amené des brise-glaces de la garde côtière. J'avais des aéroglisseurs qui essayaient d'ouvrir les ports puis leur permettre d'aller plus tôt, mais malheureusement, les vents, les courants puis la température ont fait en sorte que ce n'était pas possible, mais la garde côtière a franchement déployé beaucoup d'efforts pour permettre une ouverture plus tôt, mais ça n'a pas été aussi efficace qu'on aurait espéré à cause en grande partie de la température.
Mm-hmm. Au niveau du crabe des neiges, là, vous parlez de ce carré dans le milieu là, du golfe. Là. Qu'est-ce que vous pensez? Là? Bon, ce carré-là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on dit c'est que les pêcheurs vont aller s'installer tout le tour. Alors, comment les baleines vont finalement risquer d'être aussi empêtrées dans les câbles et tout, en essayant d'aller dans cette zone-là parce que les pêcheurs n'ont pas accès. Donc, il n'y a pas à un moment donné, c'est comme un non-sens à vouloir fermer une zone, mais là, tout le monde va pêcher autour et ce ne sera peut-être pas mieux.
Écoutez, il y a dans la grande zone de pêche qui est ouverte, ça s'appelle la zone 12, mais c'est le sud du golfe de Saint-Laurent, la zone qui est ouverte pour les pêcheurs de crabes des neiges. La partie qui est fermée représente moins de 20% de la biomasse des crabes des neiges. Alors, l'année passée, ils ont pris moins de 20% de leur prise dans cette zone-là qui est fermée. Alors, il ne faut pas prétendre qu'on a fermé plus que 20 % des lieux de pêche de l'année passée. Alors, si c'est un cinquième de qu'est-ce qu'ils ont pêché l'année passée avec un contingent le plus élevé depuis des dizaines d'années à cause de la biomasse des crabes des neiges, moi, je pense qu'ils ont une responsabilité de pêcher partout dans la zone qui est ouverte et d'éviter simplement de construire un mur d'engins de pêche. Moi, je ne peux pas imaginer qu'ils seront aussi irresponsables de faire délibérément une genre de mur d'engins de pêche si on a des données que les baleines sont arrivées dans un certain secteur ou les baleines arrivent dans le golfe. Mm-hmm. Nous avons présentement, aujourd'hui, hier, demain, des avions qui survolent le golfe, les zones de pêche, et nous aurons, dans le meilleur du possible, des données précises où sont les baleines. Et j'ai l'impression que les pêcheurs vont être eux-mêmes très conscients.
On cherchera.
Moi, j'aimerais pas être un pêcheur qui réussit à empêtrer une baleine noire dans son engin de pêche.
Parlons un petit peu du homard. Ça fonctionne un peu comme le crabe des neiges. Il y a une zone statique et des zones dynamiques. Et avec les quadrilatères, là, parce qu'on, dans le fond, ce que vous avez fait, vous avez tout le golfe est comme séparé par des petits carrés, là. Hein? C'est un peu ça. C'est quoi, 6 000 par 10 000 marins, si je ne me trompe pas, là?
Et c'est ça. C'est des zones qu'on a identifiées ou des secteurs, des zones de pêche. Et nous aurons, comme j'ai dit, dans le meilleur du possible, des renseignements précis sur la présence des baleines partout dans le golfe du Saint-Laurent. Et quand nous avons ces renseignements-là, on va ajuster, on va fermer certains carrés ou certaines des zones restreintes. La même chose, d'ailleurs, pour le transport maritime.
Oui, c'est ça.
Il y a des voies qui seront sujets à des fermetures ou des limites de vitesse, je devrais dire, pour essayer d'éviter l'interaction avec des baleines. Et comme j'ai dit, on va essayer cette année ces mesures. Je suis convaincu, et les avis scientifiques que j'ai confirment que c'est la meilleure façon de limiter l'interaction et promouvoir la survie et le rétablissement de ces populations-là. Mais on sera ouvert à discuter et avec l'industrie du transport maritime et avec les pêcheurs, la meilleure façon de les appliquer.
Bon, sur cette question du quadrilatère, là, quand on aperçoit une baleine dans un des petits carrés, on va en fermer 8 autres autour. C'est un peu le principe, ça, dans les zones dynamiques, là, où on parle des zones qui sont ouvertes en ce moment à la pêche, où il n'y a pas d'interdiction comme telle. On va fonctionner comme ça, c'est bien ça?
Oui, c'est ça l'avis scientifique que nous avons eu. La meilleure façon d'élargir, parce que, encore là, je ne suis pas scientifique de ces mammifères marins, mais la recherche, y compris la recherche américaine, qui est assez avancée dans ces questions-là, indique que quand ils sont rarement seuls, ces baleines, ils vont chercher leur nourriture dans des groupes. Moi, j'ai vu, au large de la Gaspésie l'été passé, probablement une vingtaine à un moment donné, au large de Percé, peut-être à 7-8 kilomètres de la côte, un matin au mois d'août, ensemble. Ils étaient en train de chercher leur nourriture. Alors, si on voit une baleine, les scientifiques disent les chances sont très probables qu'il y a plusieurs autour et ils circulent à l'intérieur d'une zone identifiée comme étant un certain nombre de kilomètres carrés. Alors, c'est en fonction de ça que ces mesures-là ont été identifiées.
C'est intéressant ce que vous dites, mais je vais prendre votre exemple là, pour la pêche au homard, parce que les pêcheurs d'homard trouvent que ça ne s'adapte pas à eux. Parce qu'on dit, si on aperçoit une baleine justement au large de Percé, comme vous le dites, là, à peu près une douzaine de kilomètres, ben, s'il est situé dans un quadrilatère, comme vous dites, dans ce carré-là, puis qu'on en ajoute 8 autour, eh bien, il y a bien des chances que toute la côte soit donc interdite de pêche. Alors, des pêcheurs d'homard qui vont pêcher sur le bord de l'eau à 30 pieds ou 40 pieds ne pourront plus pêcher, alors qu'on sait bien qu'il n'y a pas de baleine qui va aller là, là.
Entièrement, je comprends l'inquiétude. Cependant, la recherche américaine indique qu'il y a des baleines aux États-Unis qui sont dans l'eau beaucoup moins profond que 100 pieds ou que de 10 ou 20 brosses. L'idée qu'au Canada, les baleines n'ont pas été dans les eaux peu profondes en termes de la proximité de la côte n'est pas vrai. Aux États-Unis, on a plusieurs exemples scientifiques où les baleines ont été assez proches des côtes. Cependant, nous croyons qu'il y aura suffisamment de secteurs qui seront encore ouverts à la pêche que les omardiers comme les crabiers pourront poursuivre leur pêche. Moi, je faut être prudent de ne pas prétendre que on va créer un scénario où ce sera si fermé, aussi difficile que les pêcheurs ne pourront pas aller tendre leur cage.
Mais dans le cas des pêcheurs d'Omar, ils ont 63 jours de pêche, là, si je ne me trompe pas, 63, je crois, en tout cas. Alors, si on aperçoit une baleine à percer, face à percer une dizaine de kilomètres, on ferme un secteur pour 15 jours. Et si la baleine est de retour dans les 15 jours où elle est fermée, on referme encore 15 jours. On vient donc de fermer la côte, une partie de la côte pendant 30 jours, donc une moitié de saison de pêcheurs au homard.
C'est ça, une partie. Il y aura d'autres parties de la zone de pêche qui seront ouvertes. Alors, il ne faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas prétendre que les pêcheurs ne pourront pas aller pêcher dans d'autres secteurs. Mais l'autre chose qui est importante, c'est que si on envoie un message aux Canadiens et surtout aux Américains que nous ne sommes pas préoccupés par la protection de ces mammifères marins si menacés, les conséquences pour les pêcheurs, je comprends que c'est difficile cette année, il faudra ajuster l'emplacement de ces engins de pêche, moi je comprends ça, mais les conséquences de ne pas agir, agir d'une façon sérieuse, les conséquences pourront être désastreuses en termes d'impact économique. Alors, tout le monde a une responsabilité d'être, je pense, réaliste, mais aussi de faire sa part, comme les pêcheurs m'ont indiqué qu'ils ont hâte de faire. Parce que, comme j'ai dit aux pêcheurs moi-même, si nous agissons pas en collaboration avec l'industrie, les conséquences à long terme pourront être extrêmement difficile en termes d'accès au marché.
Je pense, je termine avec ça pour les pêcheurs d'Omar. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un genre de zone tampon et se dire qu'on comprend qu'une baleine ne viendra pas dans un secteur où il y a 40 pieds d'eau, là. Donc permettre aux pêcheurs d'Omar de rapatrier leurs casiers, au moins les installer dans d'autres zones qu'ils étaient obligés de toutes les retirer?
Bien, encore là, on verra. Si c'est le cas, et les scientifiques confirment qu'il n'y a pas de baleine dans 40 pieds d'eau, mais comme j'ai dit, les scientifiques américains ont identifié des régions ou des endroits où les baleines étaient dans les eaux pas très profondes. Mais on verra. Si c'est le cas, ben les pêcheurs pourront continuer de pêcher dans ces zones-là. Moi, je pense qu'il faut être très prudent de ne pas prétendre que ça va tout être fermé, puis les pêcheurs ne pourront pas aller tendre leurs engins de pêche, leurs casiers. Ce ne sera pas le cas.
OK. Donc, pour vous, les pêcheurs s'inquiètent beaucoup trop en ce moment par rapport à cette réglementation-là. Il faudra voir à la fin pour analyser le tout, mais vous êtes, je pense, positif en disant les risques qu'on voit, en tout cas, qui se discutent là, dans les pêcheurs, probablement que ça n'arrivera pas, ça ne sera pas aussi sévère qu'on laisse entendre.
Bien, les mesures seront sévères pour la protection des baleines.
Mais les répercussions,
je suis convaincu. Et c'est ça l'opinion et des scientifiques et de plusieurs organisations de pêcheurs, qu'ils pourront quand même aller pêcher, étendre leur casier, puis aller chercher leur prise. On veut pas éliminer l'industrie si importante. On veut que l'industrie puisse coexister avec des mammifères marins menacés. Et je pense qu'on a trouvé un équilibre où les pêcheurs pourront aller chercher leur prise, faire travailler les gens dans les usines, avoir l'impact économique si positif qu'on a eu en Gaspésie comme au Nouveau-Brunswick depuis tellement longtemps, mais tout en ayant des mesures de protection importantes qui vont protéger à long terme une industrie et son accès au marché.
Concernant les croisières, il y a le couloir là, que vous avez mis en place pour permettre aux bateaux de circuler un peu plus rapidement, mais il y a quand même un secteur où on ne pourra pas le faire, hein, je crois, entre la Nouvelle-Écosse, Charlottetown et pratiquement les îles de Madeleine, c'est ça?
Bien, c'est ça. Il y a une zone où mon collègue Marc Garneau, le ministre des Transports, a mis en place des réductions de vitesse parce que nous croyons, encore là, les scientifiques ont confirmé, si on réduit par exemple de 13 nœuds à 10 nœuds la vitesse d'un bateau, un navire ou un bateau de croisière ou un bateau de transport maritime, juste une réduction de 3 nœuds sur la vitesse augmente de 30% la chance de survie d'une baleine qui peut éviter une collision, une interaction qui peut être fatale avec ce navire-là. Alors, l'industrie maritime a aussi une obligation d'être très prudent et on a mis en place des mesures qui feront en sorte que l'industrie maritime aura aussi son rôle à jouer quant à éviter cette interaction-là. D'ailleurs, les nécropsies qui ont été faites l'année passée sur les baleines mortes, on a fait 7 nécropsies parmi les 12 qu'on a pu récupérer, mais les 7 nécropsies ont identifié des collisions avec des navires comme étant une cause majeure de ces décès-là. Alors, c'est pourquoi on a mis en place des restrictions de vitesse et une surveillance accrue en termes de surveillance aérienne et l'obligation d'ailleurs des bateaux de rapporter la présence des baleines. Et là, on pourra enquêter pour confirmer est-ce que c'est des baleines noires et c'est quoi exactement.
Il y a des amendes pour ceux qui ne respectent pas les limites de vitesse, entre autres pour les bateaux. Je pense que c'est 25 000 $, c'est ça?
C'est ça. L'année passée, le minimum était 6 000 $. Je sais que Marc Garneau a essayé de voir s'il ne pouvait pas augmenter un peu ces amendes-là. Mais si, évidemment, une compagnie se fait prendre une deuxième fois en dépassant les limites de vitesse, il y aura des conséquences accrues.
Est-ce qu'il y a des amendes pour les pêcheurs qui ne respectent pas votre réglementation? On se posait la question, ouais, parce que ce n'est pas inscrit nulle part, il n'y a pas de montant, là, mais...
Ce sera des poursuites sous la loi sur les pêches. C'est comme si, par exemple, un homardier prend un homard qui ne respecte pas la taille minimale. Il y a des façons, c'est des conditions de leur licence. Alors, si un pêcheur ne respecte pas les conditions de sa licence, il ou elle sera sujet à des poursuites sous la loi sur les pêches. Il peut avoir des amendes, il peut avoir des suspensions de permis. Moi, je vais insister qu'il y a des conséquences sévères pour les pêcheurs qui ne respectent pas ces conditions-là.
Alors, concernant ce plan de protection pour la baleine noire, est-ce que c'est un plan qui est réversible cette année? Est-ce que, l'an prochain, ce sera autrement? Est-ce que vous allez être plus flexible? Est-ce que la porte est ouverte, du moins, pour améliorer ça par rapport aux pêcheurs, là, à l'industrie? Là?
Ça, c'est important. Moi, j'ai dit aux pêcheurs qu'on va mettre en place des mesures cette année.
Oui.
Mais si on voit pendant la saison et à la fin de la saison, j'espère qu'il n'y aura pas de décès de baleine noire. J'espère et je suis convaincu que les pêcheurs pourront aller prendre leur prise, pourront réussir à pêcher cette année comme dans les autres années, peut-être avec des ajustements. Et on sera toujours ouvert à discuter avec eux autres et pendant la saison cette année, mais surtout après la saison, quelles mesures ont été appropriées, qu'est-ce qui étaient les conséquences de certaines mesures. Et nous serons ouverts à revoir toutes les mesures après que la saison soit finie ou pendant la saison. On n'est pas, c'est pas des mesures permanentes à toujours. Il faut être flexible puis ajuster en conséquence de la présence ou de l'arrivée dans certains secteurs de ces baleines-là, c'est tout.
Donc, c'est comme une année test vraiment pour vous avec votre réglementation. Puis après ça, la porte est ouverte là, pour modifier ou alléger certaines mesures si tel est le cas.
Alléger ou peut-être renforcer. Il faut voir.
Aussi, oui, dans les deux sens.
C'est ça. Moi, je ne veux pas prétendre que c'est une voie immédiate ou directe à des allègements. Cependant, comme j'ai dit aux pêcheurs moi-même, il faut voir les données scientifiques puis la réalité sur l'eau et dans l'eau cette année. Puis il faut être à l'écoute.
Dominique Leblanc, ministre de Pêche et Océan, merci beaucoup pour ce temps très précieux que vous avez donné et c'est bien expliqué aujourd'hui à la population et aux intervenants, donc aux pêcheurs, à l'industrie. Merci.
Bien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.